On a beaucoup de choses à voir ce soir, puis j'espère qu'on va passer à travers un peu de matière, puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre la soirée des mains du Seigneur afin qu'il parle à nos cœurs, qu'on soit ouvert, réceptif à recevoir ce qu'il a à nous communiquer. Seigneur, je viens te remercier dans ton nom pour le temps qu'on a ce soir autour de ta parole. Je sais, Seigneur, que tu es présent, je sais que ta parole est vivante, et je sais d'avance que tu vas faire un œuvre de changement, un œuvre de transformation dans nos vies, pour faire enlever de nous tous nos faux raisonnements et rebâtir dans nos pensées, rebâtir sur ta parole. Oui, merci, Seigneur, parce que tu es vivant et que tu es présent. On est reconnaissant de ces choses. Oui, c'est dans le nom de Jésus que je te réclame d'agir ce soir. Amen. Alléluia. On a vu la semaine passée qu'on doit être prêt au changement dans notre vie. C'était un peu comme dans l'introduction. C'est sûr, ça n'a peut-être pas rapport avec l'évangélisation, mais qu'est-ce que ça a rapport? C'est que l'évangélisation, c'est un niveau, je dirais pas d'aptitude, mais un niveau un petit peu plus élevé que juste accepter Jésus. C'est que quand on est rendu au point qu'on est capable de s'afficher publiquement pour répandre le message de l'évangile, c'est sûr qu'on a atteint un certain niveau de sortir de nous-mêmes, de sortir de notre manière d'être physique, personnelle, de gêner, de traumatiser, d'écraser, d'abattu, de tout ce qui pourra nous empêcher. Puis le Seigneur fait un œuvre de changement et de transformation. Si on est ouvert, si on veut qu'il se passe de quoi dans notre vie, il va le faire. Si on est prêt à recevoir tous ces enseignements, ces instructions, on va être changé, on va être transformé, puis on va devenir comme Jésus, parce que ça fait partie de la promesse de Dieu dans sa parole, de devenir à l'image de Jésus, à l'image de son Fils. Puis nous sommes renouvelés de gloire en gloire, comme par le Seigneur lui-même qui agit à travers de nous, par l'Esprit, pour devenir comme Jésus. Puis si on est prêt à être changé, le Seigneur va le faire, puis il va nous amener à être comme lui. Il faut laisser faire le Saint-Esprit en nous. Je crois que pour faire son œuvre, on a besoin de comprendre. Toute la parole, il y a plein d'explications dans la parole, mais des fois, on comprend pas réellement ce qui est écrit, puis on peut pas expérimenter ce qui est écrit parce qu'on comprend pas. Le premier point que Dieu fait, c'est de commencer à nous révéler, à nous enseigner, à nous instruire, à nous donner tous les moyens, tous les outils, toutes les armes, tout ce qu'on a besoin d'avoir pour grandir. On a besoin de comprendre ce qui est écrit dans sa parole, et c'est pour cela que le Seigneur fait du ministère dans les églises, dans les réunions, par des enseignements de toutes sortes pour nous changer. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui agit au travers de ça. Son but, c'est, comme je l'ai dit, c'est de venir à la stature de Jésus. Mais est-ce qu'il est important de connaître la raison d'être de l'Église? C'est une question. Est-ce qu'il est important de connaître la raison d'être de l'Église? Oui. On va voir, on va commencer tout de suite au point numéro 2. On était rendu à la vision que Jésus a donnée à son Église. Quand on parle d'une vision, c'est comme, ah, là, je le vois, c'est quoi que Dieu s'attend de moi ou de mon Église? J'ai une vision claire, expliquée, je comprends. Là, je connais la vision que Jésus a donnée à son Église. Est-ce important de connaître la raison d'être de l'Église? Nous allons premièrement faire un survol de la pensée de Dieu sur la raison d'être de l'Église. Pour comprendre l'appel qui est sur nos vies, nous devons comprendre tout d'abord quelle est sa vision pour l'Église. Peut-être qu'on se dit que moi, c'est pas important de réaliser vraiment c'est quoi l'appel qui est sur l'Église, c'est quoi la vision de Jésus pour l'Église, parce que j'ai pas le temps de m'impliquer. Peut-être c'est ça qu'on a dans notre pensée, que c'est pas important de connaître parce que j'ai pas le temps d'embarquer, j'ai pas le temps de m'impliquer. Puis je parle à des chrétiens, là, je parle à des gens qui ont déjà donné leur vie au Seigneur. Peut-être qu'on est trop impliqué à toutes sortes d'autres choses. Mais savez-vous que le Seigneur, quand il nous donne des instructions comme un cours comme ça, il est en train de nous enrichir pour les temps éternels? Quand il nous dit qu'il a préparé des œuvres d'avance pour nous autres, c'est dans quel but? C'est dans le but qu'on se ramasse un trésor dans le ciel. Est-ce qu'on est conscient que quand je suis dans l'Église du Seigneur, j'ai été sauvé? Oui, je fais partie de ceux qui sont dans la vie éternelle. Mais est-ce que je suis conscient que Dieu a préparé un chemin devant moi avec toutes sortes d'œuvres qu'il veut que je pratique? Puis je suis en train de m'enrichir pour mon temps éternel que je vais passer avec lui. Toutes les œuvres, c'est dans le but de se ramasser des récompenses. Quand on va arriver l'autre bord dans le tribunal de Christ, c'est pour recevoir selon le bien ou le mal qu'on a reçu, qu'on aura fait dans son corps. Mais ce qu'on veut recevoir, c'est de recevoir selon le bien qu'on aura fait, en réponse de l'appel qu'il a mis sur notre vie. Comprendre la raison d'être de l'Église, c'est de comprendre mon destin, ce à quoi je suis destiné. Est-ce que vous êtes conscient ce soir que quand vous allez saisir la vision de l'Église que Jésus donne à son Église, que ça va vous donner aussi une réponse, c'est quoi votre destin sur cette terre, c'est quoi votre avenir sur cette terre, c'est quoi qui pourrait être le plan de Dieu pour vous sur cette terre? Des fois, on dit, ah, ben moi, je ne sais pas, je vais à l'Église, je ne comprends pas vraiment pourquoi je vais là. Je vais là parce que je suis sauvé, mais on ne sait pas plus loin jusqu'à où sont l'importance ou bien l'impact que ça va donner d'obéir au Seigneur puis d'avancer. Mais plus qu'on apprend des choses sur Dieu, plus qu'on peut commencer à faire des choses avec Dieu, puis on va commencer à s'enrichir, puis notre destin va être servir Dieu puis se ramasser des fruits pour la vie éternelle. Est-ce qu'il y en a qui ça l'intéresse? Moi, personnellement, je veux pas être sur l'aide sociale l'autre bord. C'est vrai. Il y en a qui vont être sauvés comme au travers du feu parce qu'ils ont bâti leur vie sur les choses matérielles. C'était juste s'occuper, manger, travailler, dormir, juste les choses matérielles. Ils vont arriver l'autre bord comme au travers du feu, pas de récompense. Tandis qu'il y en a d'autres qui ont investi leur vie, même si c'est un petit peu qu'ils avaient comme qualité ou comme don. Ils l'ont investi à l'œuvre de Dieu, le maximum qu'ils pouvaient. Ils se ramassent des trésors dans les cieux. Et le Seigneur veut vous parler à chacun de vous ce soir pour vous donner cette vision-là. Quel est le destin qu'il a préparé d'avance pour vous? Pour comprendre, pour continuer à comprendre, qui est-ce qui fait partie de son Église, le point 3? Parce que si je comprends la vision de l'Église, c'est qui fait partie de l'Église? Le Seigneur parle comme ayant une seule Église. À travers toute la terre, il y en a plein des réunions, des évangélistes, des baptistes, des pentecôtistes, des mennonites, des frères en Christ. Des fois, il y en a 3-4 dans chaque... Est-ce que j'ai une vision refermée et dire, hey, c'est rien que mon Église ici à Châteauguay qui sont sauvés, les autres ne le sont pas? Non. Le Seigneur, il y a une seule Église à travers toute la terre, puis quand Jésus va revenir, ça va être pour venir chercher son Église qui fait partie de tous les croyants qui ont reçu Jésus comme leur sauveur. L'Église est formée de gens qui un jour ont accepté la Seigneurie de Jésus-Christ. Des gens qui ont accepté la Seigneurie de Jésus-Christ. Pas juste accepté Jésus comme leur sauveur, mais qui ont accepté que Jésus soit leur Seigneur. Qui ont accepté que Jésus commence à régner dans leur vie. Qui ont accepté que Jésus commence à... Ils ont donné le droit à Jésus de donner, que Jésus donne ses recommandations, ses instructions, ses révélations, son plan pour que je l'obéisse, pour que je marche dedans, pour que je fonctionne selon sa pensée. Est-ce que j'ai accepté la Seigneurie de Jésus dans ma vie? Est-ce que vous avez accepté la Seigneurie de Jésus dans votre vie? Si oui, vous faites partie de son Église. Vous faites partie de ses enfants. Vous faites partie de ceux qui lui appartiennent. Leur décision est une réponse suite à l'appel que le Saint-Esprit a fait par la parole de Dieu. C'est grâce à l'œuvre de l'Esprit, si je peux connaître le plan du salut, c'est grâce à l'œuvre de l'Esprit que je peux réaliser ce qui se passe l'autre bord et me repentir et suivre le Seigneur. Ils sont rachetés par son sang et leur nom est inscrit dans les cieux. Une fois que tu as accepté la Seigneurie de Jésus-Christ, tu as répondu à l'appel que le Saint-Esprit a fait, t'es racheté, tu t'appartiens plus, Jésus a payé pour toi, t'es racheté, tu lui appartiens à lui, c'est lui qui est propriétaire de ta vie. Puis là, il inscrit ton nom dans les cieux, dans le livre de vie. C'est seulement ceux que leur nom est écrit dans le livre de vie qui vont rentrer dans la vie éternelle. Les autres ne rentrent pas. Même s'ils sont bons, sont fins, sont smart, sont gentils, ils sont toutes les qualités qu'ils voudront, ils sont aussi pécheurs sans Dieu qui ont besoin de passer par Jésus pour être sauvés. L'Église est composée de gens de tout peuple, de toute tribu, de toute langue, et elle s'étend sur la surface de la terre. C'est pas juste des Canadiens français qu'il va avoir, c'est pas juste des Blancs qu'il va avoir dans le ciel. Il va y avoir toutes les races. Apocalypse 5:9, ça nous dit, il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Donc, comme vous m'avez dit, vous aviez accepté la Seigneurie de Jésus-Christ. Si vous l'avez fait, vous faites partie de son Église. Si tu es sauvé, tu fais partie de son Église. Puis le message, la vision de Dieu qu'il a pour son Église, c'est aussi pour toi, pour chacun de vous, pas juste pour une personne en particulier, pas juste pour le pasteur, pas juste pour les diacres, pas juste pour un évangéliste ou un docteur ou un enseignant. C'est pour chacun des membres de son Église que Jésus a une vision, qu'il a un plan, qu'il a des œuvres qu'il a préparées pour chacun de vous afin que vous soyez enrichis et que vous soyez enrichis, ça le dit, vous soyez riches dans le royaume de Dieu. Jésus dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où ce que la teigne et la rouille détruisent, puis où ce que les voleurs percent des robes, mais ramassez-vous des trésors dans les cieux où ce que la teigne et la rouille ne détruisent point, puis les voleurs ne percent ni ne dérobent. L'Église est aussi subdivisée en petits groupes locaux, ce qui permet aussi aux croyants de se réunir dans les maisons ou dans les locaux plus vastes. Cela fait aussi partie du plan de Dieu. S'il y en a qui disent, « Ah, ben moi, j'ai une réunion dans mon coin, j'ai une réunion avec un pasteur, puis on fait ça dans une maison privée. » Gloire à Dieu, parce que dans le temps des apôtres, il y avait aussi des réunions des maisons privées. « Ah, nous autres, on a une réunion, on loue un local, puis on est à peu près 20-30 personnes, puis un pasteur qui est... » Gloire à Dieu, il y avait des gens aussi qui faisaient des réunions dans des synagogues, puis dans des maisons comme un deuxième étage, dans la chambre haute. Ça existait dans le temps de Jésus, puis ça existe encore aujourd'hui. C'est le plan de Dieu qu'on se réunisse ensemble, que son corps se réunisse, pour le louer, mais pour aussi recevoir ses instructions et aussi travailler à son œuvre. Il y a un passage dans Tite 1:5 qui dit, « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » C'est que Dieu a un plan pour chaque ville. Croyez-vous que Dieu veut sauver avec les gens de Châteauguay? Dieu veut aussi sauver des gens à Saint-Rémy. Il veut sauver des gens à Saint-Constant. Il aimerait même qu'il y ait des réunions à Saint-Rémy, à Saint-Constance, à Candiac, à Dulson, à Sainte-Catherine, à Mercier, dans chaque ville. Le plan de Dieu, c'est que Dieu veut sauver les gens qui nous entourent et bâtir des réunions partout, puis d'avoir des anciens dans toutes les villes. Je n'ai pas entendu gros domaine là-dessus. Croyez-vous que ça peut arriver? Que Dieu ait un plan préparé d'avance, que ça l'aboutisse à qu'il y ait des anciens dans chaque ville, avec des réunions, puis qu'il y ait des gens qui glorifient Dieu partout. Oui, puis c'est ce qu'on devrait espérer, puis c'est ce qu'on devrait prier, afin que ça l'arrive, parce que c'est le plan de Dieu. Le Seigneur place dans chacun de ses endroits des gens équipés par lui comme responsables d'organiser l'Église et de fortifier ses brebis. Il veut aussi les utiliser pour entraîner les gens à faire la volonté de Dieu. Quand Daniel emmène ses enseignements, c'est dans le but de nous équiper, de nous fortifier, qu'on ait la vision du Seigneur dans certains points, puis qu'on puisse avoir des outils pour avancer. C'est le plan de Dieu que ça se passe, qu'on vienne puiser ces enseignements-là. C'est de même qu'on va grandir. C'est de même qu'on va atteindre d'avoir des âmes sauvées partout. Ça commence par là. Quand on voit dans Éphésiens 4, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Ça, c'est qui ça, les saints? Chacun de nous, chacun de vous. Jésus veut vous perfectionner. Dieu veut vous perfectionner, que vous deveniez parfait, à perfection, que vous soyez tel que lui, ça l'attend. À quoi ça va servir? Ça va servir en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps. Votre perfectionnement va arriver à faire avancer le ministère de Dieu sur la terre, le service du salut des hommes, le service d'édifier les frères et sœurs. Plus qu'il va y avoir de personnes perfectionnées, plus qu'il va y avoir des personnes équipées, mais plus qu'il va y avoir des personnes qui vont pouvoir encourager et édifier les autres personnes autour. Ça fait partie du plan de Dieu. Ça fait partie de sa vision. Son Église est formée de gens sauvés, son Église est formée de gens qui deviennent équipés et fortifiés et perfectionnés, puis être capables de travailler dans son œuvre pour en former d'autres, puis en sauver d'autres, puis en perfectionner d'autres, puis qu'il y ait des églises partout, dans tous les villages. Moi, je crois que Dieu peut le faire, puis je crois qu'il le fait. Le 100 ans, il n'avait pas d'église à Châteauguay. C'est vrai. Dieu travaille, c'est sûr qu'il y a des villes, il y a des places, qu'il y a un réveil, toute la ville se convertit. Mais ça arrive, mais on le voit pas souvent. Ça l'arrive, mais on le voit pas souvent. Mais la majorité des cas, c'est des églises qui ont une croissance tranquillement, petit peu par petit peu. Les gens travaillent comme qu'ils peuvent, puis ils font avancer l'église, puis là, ça grossit, puis il y a d'autres personnes qui se rajoutent. Puis à long terme, il y a une église qui a commencé là, un autre qui a commencé là, un autre qui s'est construit là, puis ça se multiplie. Le 2000 ans, ça a commencé qu'avec un groupe de 12 apôtres. Puis là, à travers l'histoire, il y a des millions, des milliards de personnes qui se sont converties. Juste actuellement, ils estiment qu'il y a au moins 600 millions de croyants. Mais dans le monde chrétien. Mais ça sous-entend toutes les religions qui se disent chrétiennes, mais quand même, il y en a une bonne partie, juste présentement, de gens qui marchent par la foi, qui font partie de l'Église de Jésus-Christ. Le Seigneur, moi je suis sûr que le Seigneur veut en sauver encore plus. Il va aller en chercher plus. Le Seigneur tarde son avènement, même afin que les derniers brebis que lui sait d'avance qu'ils vont accepter, il attend après. Puis là, il est en train d'attendre après nous autres qu'on soit fortifiés pour aller chercher ces brebis-là. Il attend après nous autres. Gloire à Dieu, il ne faut pas décevoir le Seigneur. Il faut se laisser travailler par le Saint-Esprit, comme dans des réunions de même, qu'on saisisse sa vision, puis là, on commence à s'enligner dans nos vies pour s'en aller dans le plan de Dieu. Aller, c'est la grande commission donnée à l'Église. On vient de savoir c'est qui ce qui fait partie de l'Église, puis de quoi c'est formé, mais aller, c'est la grande commission qu'a donnée à l'Église. Le Seigneur, avant son départ, a donné un ordre à ses disciples. Il veut, par cet ordre, nous donner une direction, une vision de ses attentes pour son Église. Puis c'est à quoi? Y a-t-il quelqu'un qui le sait sans avoir lu sa feuille? Aller et annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Cet appel est premièrement un appel de groupe, est un appel pour son corps de s'engager à garder le cap à la recherche des âmes perdues. Mais par la suite, cet appel se subdivise en appel personnel selon le plan qu'il a formé pour chacun de nous. C'est sûr, quand il a dit cet appel-là, il a dit ça aux 12 qui étaient là, puis il datait d'en avoir plus que 12, les 70, puis il était quasiment rendu 120 dans la chambre haute, qui s'est dit qu'il était 120. Quand il a dit « aller », il s'adressait à tous ceux qui étaient là, c'est à ceux qui faisaient partie de son Église. Il leur a dit « allez ». Il a dit ça à l'apôtre, mais il a dit ça aux 70 disciples, ceux qui étaient envoyés par Jésus pour aller évangéliser. Il a dit ça aussi aux autres, des 12, 70, 82. Il y avait d'autres personnes qui étaient là, qui n'avaient pas de titre reconnu, qu'on voit à quelque part. Puis, c'était toute la gang qui a dit « allez ». Le verset clé, c'est justement Marc 16, 15 à 16. Ça nous dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Nous avons d'aimer un message très tranchant. Le sort de l'humanité est au bout de ce qu'on leur dit. Est-ce qu'ils vont croire ou pas croire? Et de celui qui croira et qui sera baptisé, ça sous-entend qu'il est baptisé puis il s'engage à suivre Jésus, il sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Je vais juste aller, on a le temps. On va regarder juste la première phrase. Aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. On va aller voir les mots originaux qui étaient dans le grec. On va juste regarder les différents sens que ces mots-là peuvent s'adresser. Comme aller. Ça, c'est sûr que c'est basé sur la traduction Louis II. Comment est-ce que Louis II, lui, a traduit ce mot-là? Les sens que lui voit ça, c'est aller, partir, traverser, au sortir, se retirer, être en chemin, quitter, se rendre, se mettre en route, se diriger sur, marcher, s'en retourner, suivre, faire le voyage. Quand on dit aller, c'est sûr que c'est pas rester assis. C'est complètement le contraire que de rester assis. Quelqu'un qui dit, moi je fais partie de l'Église puis je suis assis. Non, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. C'est aller. C'est l'ordre qu'il a donné à toute son Église. Aller par tout le monde. Quand on s'arrête sur le mot tout, c'est parce qu'il y a deux mots tout dans cette phrase-là, mais ce n'est pas le même dans les deux situations. Il dit tout, c'est tout, tout en entier ou tout ensemble. Aller par tout le monde, c'est dans l'ensemble du monde. C'est dans le monde tout entier que ça sous-entend. Ça veut dire qu'il n'y a pas, le Seigneur, il n'y a pas de restriction de local. Il dit, j'ose est juste là ou l'autre. Quand il parle de tout, c'est être prêt à aller partout. Aller, c'est sortir d'être assis, puis aller, puis partout. Le mot monde, c'est le mot en grec qui est cosmos. Le mot monde, ça sous-entend l'univers, le cercle de la terre comme telle, les habitants de la terre, les hommes, la race humaine, la multitude sans Dieu, la masse des hommes séparés de Dieu, ceux qui sont hostiles à Christ, ça fait partie du monde, les affaires du monde, la masse des choses terrestres, la totalité des biens terrestres, les richesses, les avantages, les plaisirs, ça c'est le mot monde. Quand il dit « aller par tout le monde », ça veut dire, tu pars, puis ta limite, c'est le cosmos au complet. C'est l'univers au complet. Dieu, il a une vision plus grande que ce que nous autres, on a sur l'évangélisation. Des fois, on se dit, ouais, mais moi, j'ai parlé du Seigneur à ma femme. Là, on pense que notre vie chrétienne est accomplie. Le Seigneur, il veut qu'on relève les yeux un petit peu plus haut. Là, on va dire, là, j'ai parlé du Seigneur à mes enfants. Lève un peu plus. Mes parents, puis mon frère, puis ma soeur, puis mon oncle, ma tante, mon cousin, ma cousine. Ah, ben là, j'ai commencé à parler à où est-ce que je travaille, puis là, c'est à mes voisins dans la rue, puis là, à ma ville au complet, puis après ça, on a atteint le Québec au complet, puis on a atteint le Canada au complet, on a atteint l'Amérique du Nord au complet, puis on peut atteindre la terre au complet. La vision du Seigneur, c'est d'atteindre la terre au complet. Croyez-vous à cela? Dans la phrase, il dit « Allez par tout le monde, prêcher. » Le mot « prêcher », c'est prêcher, publier, proclamer, crier ou prédicateur. C'est la même affaire, c'est le même sens. Le sens, comment est-ce qu'il peut être défini, ce mot grec-là, c'est être un héros. Mais pas héros, R-O-S, H-E-R-O-S. Ça, c'est un héros, un vaillant homme. Héros, H-E-R-A-U-T, c'est le même qui est écrit. C'est un officier. C'est quelqu'un qui proclame à la manière d'un héros. Les héros, moi je vais vous le dire dans la définition du dictionnaire tout de suite pour que ça aille mieux. C'est un officier dont la fonction était la transmission des messages ou les proclamations solennelles. On peut voir ça dans Daniel 3, les versets 1 à 6, qui parle du roi Nébuchadnezzar quand il a fait sa statue d'or de 60 coudées. Il dit, le roi, il fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges, les magistrats. Bon, toute la gang était là. Alors, les satrapes, les intendants, tout ça, ben, ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Puis un héros, c'est dans le type que je vous parle, il cria à haute voix. Voici ce que vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, du zambus, de tous les instruments de musique, vous vous prosternerez et adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant dans la fournaise ardente. Le héros, c'était cette personne-là qui parlait dans le nom du roi pour proclamer des choses solennelles, des choses graves, que si tu n'obéis pas, c'est ça qui va t'arriver. Le héros, il parlait dans le nom du roi Nebuchadnezzar dans ce contexte-là. Il annonçait les vérités haut et fort, et il les proclamait devant tous, puis tout le monde l'écoutait. Puis quand il a dit que ça a commencé, la musique est partie, puis tout le monde s'est agenouillé, sauf, c'est sûr que dans ce contexte-là, c'était un contexte d'idolâtrie, puis que c'est pas tout le monde qui a embarqué. Mais l'idée, c'est que, imaginez, là, c'est quoi qui est un héros de Dieu? Héros, H-E-R-A-U-T. C'est quelqu'un qui parle dans le nom de Dieu, qui annonce les paroles solennelles de Dieu, des paroles qui vont amener la vie ou la mort des gens. Puis point que la mort terrestre, la mort éternelle. Vous êtes les héros de Dieu, les proclamateurs, les publicateurs, ceux qui doivent annoncer haut et fort les vérités de la parole de Dieu et le message que Dieu vous met à cœur de leur annoncer. Puis, être un héros, c'est comme un officier. Ils disent, ils proclament à la manière d'un héros, toujours avec la sujection de formalité, de gravité, et une autorité qui doit être écoutée et respectée. Le héros, c'était ça, le sens du mot héros. C'est quelqu'un qui parlait, puis était respecté, écouté, puis tout le monde faisait ce qu'il disait. Dans l'autre sens, ça dit publier, proclamer ouvertement quelque chose qui s'est passé ou quelque chose qui va arriver. Puis dans l'autre sens, dans le niveau d'aujourd'hui en tant que chrétien, c'est de proclamer publiquement l'Évangile de ce qui concerne Jésus. C'est d'annoncer dans le nom de Jésus le salut par grâce qui doit être annoncé à tous. Mais c'est notre mission, c'est notre tâche. Un autre point, un autre passage qui nous parle d'un héros qui était dans le même mot, Apocalypse 5:2, ça nous dit « Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. » Mais quand que cet ange puissant qui criait, c'était le même verbe que quand on dit « Allez prêcher la bonne nouvelle. » L'ange cria le message. C'est un ange puissant, puis il cria le message. Puis nous autres, il nous dit « Allez prêcher. » Crier, annoncer les vérités qui viennent de moi, de ma parole, parler en mon nom, dites les décrets de Dieu, parler du sort final des méchants, parler de la grâce de Dieu qui est en son Fils. C'est ça qui est notre mission et notre tâche. C'est un ministère. Tu sais, des fois, du moins, je ne sais pas quoi faire comme ministère dans l'Église. Il y a déjà un pasteur, il y a déjà des diacres, il y a déjà des personnes à l'école du dimanche. Le pasteur, les diacres, l'école du dimanche, tous les responsables ou tous ceux qui font partie de ces groupements-là ou ceux qui se font partie dans l'Église, vous pouvez tous être des héros de Dieu, des proclamateurs des vérités de Dieu pour annoncer. C'est un ministère, c'est un service que vous faites de faire les œuvres que Dieu vous a demandé pour son Église, mais c'est ça, s'amener des œuvres, d'être, aller, prêcher à toute la création, annoncer les vertus de Dieu, annoncer le sort à venir de l'humanité. Saviez-vous que Jésus était un héros? En plus d'être Messie, d'être oint, d'être roi, d'être tout, dans ses qualificatifs, il était un héros. Dans Luc 4:18, ça nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Le mot proclamer, c'est exactement le même mot. Quand tu proclames, tu parles, tu annonces, tu cries, tu parles pour annoncer le message de Dieu. Mais Jésus avait été oint pour proclamer. Il est un héros de Dieu. Il proclamait aux captifs la délivrance. Il leur annonçait le plan de Dieu à cette personne-là qui la délivrait de sa captivité. Ses apôtres aussi, ils étaient des héros. Puis ses disciples, tous ses disciples,